Ça me donne toujours de la joie de penser que le regard du Seigneur nous enveloppe tous. Notre Père céleste contemple ses enfants et Jésus, en les lui présentant, dit qu'il n'a pas honte de les appeler ses frères. C'est quelque chose. Rendez-vous compte. Dans le ciel, il n'a pas honte de vous appeler ses frères. Alors vivons sur la terre comme des gens de la famille de Dieu. Notre origine maintenant, elle est céleste. Jésus, dans sa prière, a dit à son Père, « Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. » Nous sommes ici-bas des étrangers et des voyageurs. Mais notre bourgeoisie, elle est dans les cieux. Et c'est de là que nous attendons Jésus, comme sauveur, qui va transformer le corps de notre humiliation, ce corps que nous avons encore avec ses faiblesses, en un instant, en un clin d'œil, par ce pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses, en un instant à sa venue, nous serons transmués, transformés à son image. Nous aurons un corps de gloire comme celui du Seigneur. Et ainsi, nous serons attirés à lui ayant sa nature, comme un aimant n'attire à lui que ce qui est de sa nature. Ils seront enlevés auprès de lui. Et quand nous le verrons, nous lui serons vraiment semblables. Quelle merveilleuse espérance. Dieu notre Père, nous voulons te demander que nous soyons remplis de cette certitude que nous marchons à ta rencontre, que bientôt tu seras sur les nuées du ciel et que nous pourrons entendre ta voix et venir à toi. Et c'est toi qui vas nous conduire dans ces aimables demeures de la maison du Père que nous voudrions déjà un peu visiter par la foi et par les enseignements que tu nous as donnés, où tu nous dis qu'il y a une place que tu as préparée pour chacun de nous et que tu as payée au prix de ta vie. Merci, ô Dieu, de nous avoir tant aimés. Merci de nous arracher déjà à ce présent siècle mauvais pour nous faire vivre dans la paix du sanctuaire. Amen. Vous voyez que le Seigneur est au-dessus de la météo. On nous avait promis des journées pluvieuses, affreuses. J'avais dit au Seigneur, tu pourrais peut-être nous donner un signe de ta grâce. Tu voulais qu'il voit quand même que c'est un beau coin, celui où nous sommes. Parce que s'il pleut, ce n'est pas tout à fait la même chose. Eh bien, le Seigneur sait répondre au-delà de tout ce que nous pouvons lui demander et penser. Il sème des joies sur le sentier des justes, nous dit l'Écriture. Alors voilà, dans ce dimanche matin du 8 octobre, nous terminons ce deuxième volet de ce grand thème commencé en février, les faits divins et nos sentiments. Et ce sujet d'octobre était caché avec le Christ en Dieu. Et je vous rappelle ces textes, et qui sont encore derrière moi au tableau, ce texte de bienvenue, pour ne pas me retourner, parce que ma femme dit quelquefois que j'ai les yeux derrière la tête, quand je suis trop fatigué. Elle me dit que j'ai les yeux derrière la tête. Quand... Mais alors, je sais ce que sont ces versets. Hein? Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La force et la joie sont dans sa demeure. Tout est à vous
et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Au fond, ces trois textes peuvent vous résumer tout l'enseignement que nous avons reçu, non pas d'un homme, mais du Seigneur. Et j'aurais peut-être encore quelques mots à vous dire au sujet de ce plan rédempteur que j'ai enseigné dans la fin de semaine précédente. Il y a peut-être quelques possibilités qui peuvent être envisagées pour ceux qui aimeraient avoir des copies de ces tableaux. Mais nous entrons maintenant dans notre étude que vous venez de faire. Ça s'est bien passé dans vos ateliers? Pas de bagarre? Pas de dispute doctrinale? Pas de bataille à coups de verset? Quelqu'un qui va avoir raison sur l'autre? N'est-ce pas? Alors que nous devons tous être amenés à avoir une même pensée, un même amour, un même sentiment dans la parole. Alors, vous avez repris depuis le verset 17, donc qui est aussi un de ces textes clés, verset 17 du chapitre 3, « Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu. » Et c'est quelque chose de merveilleux de voir encore ce qui est dit au verset 12 de ce précédent chapitre. Ainsi, quand il est dit juste avant, Christ est tout en tous, hein, eh bien, ainsi donc, comme des élus de Dieu, il y a trois mots qui sont donnés que je voulais encore souligner. Qu'êtes-vous? Vous êtes des élus de Dieu. Il vous a appelés. Parce que nous étions éloignés. Alors, on nous appelle quand on est loin. Hein? Nous étions loin de lui. Alors, ceux qui étaient prédestinés à être rendus conformes à l'image du Fils de Dieu, comme ils sont tombés, comme ils se sont éloignés du Seigneur, le Seigneur a dû nous appeler. Ceux qui étaient prédestinés, il les a appelés. Mais comme nous étions couverts de nos péchés, ceux qu'il a appelés, il a dû les justifier. C'était le deuxième point que nous avons traité la dernière fois. Et ceux qu'il a justifiés, qu'est-ce qu'il reste? Il les a aussi glorifiés. En quelque sorte, nous sommes déjà glorifiés. Nous avons cette assurance. Pour le Seigneur, c'est comme si c'était déjà fait pour nous. Comprenez-vous? Parce qu'il a dit, tout est accompli. Pour que son plan se réalise entièrement. Donc, si vous avez reçu Jésus, eh bien, vous n'allez pas perdre ce salut. On perd son salut, soi-disant son salut, quand c'est une doctrine seulement, qu'on a pigé, qu'on a compris, puis après on l'abandonne. Mais quand c'est une personne qu'on a reçue, quand le salut c'est quelqu'un qui a donné sa vie pour nous, qui nous a rachetés, vous croyez qu'il va nous perdre et nous laisser? On peut encore s'égarer. Mais vous pouvez être sûr de votre salut si votre salut, c'est quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Alors, vous êtes élus, vous êtes les élus de Dieu, comme des élus de Dieu, saints, c'est-à-dire mis à part, un second mot hein, que vous devez garder, vous êtes déjà des saints. Saints, mis à part par Dieu, pour une tâche, pour l'accomplissement de sa volonté, qui doit se faire sur la terre comme elle se fait au ciel. Qui est-ce qui fait la volonté de Dieu dans le ciel? Ce sont les anges, et alors nous devons être sur la terre, ceux qui accomplissent la volonté de Dieu dans ce monde. Alors, nous avons été sanctifiés, mis à part pour cela, c'est notre vocation. Et puis non seulement nous sommes élus, saint, mais aussi bien-aimé. Hein. Est-ce que vous aimez ce terme? Bien-aimé. Qui est-ce qui est le bien-aimé en grand être? c'est Jésus, hein. C'est mon fils bien-aimé. Et vous êtes identifié au bien-aimé. Vous êtes bien-aimé. Alors, bien-aimé de qui? De Dieu, du Père. Et quand je dis souvent, vous devez prendre conscience que le Père vous aime comme il aimait son fils. Vous ne trouvez pas que c'est tonique? Que c'est merveilleux? Que ça enlève la déprime? Quand vous savez que Dieu vous aime comme Jésus était, aimez-moi, ça me dépasse. Et c'est ça qui nous conduit à l'adoration. On n'a plus de mots, on se prosterne, on adore. C'est tellement grand, c'est tellement beau, ça nous saisit tellement qu'on en frissonne. Vous connaissez des fois ces frissons divins? Pour certains, c'est là que ça se passe, pour d'autres, c'est ailleurs. Mais il y a ces moments où, de grâce où vraiment ça déborde. Ça déborde. Et nous l'en bénissons. Comme nous le bénissons aussi pour les moments de désert, parce qu'il y a aussi des moments où on ne sent rien. Et alors, c'est là que la foi doit être en activité. Ce n'est pas parce que Dieu vous a abandonné, il vous éprouve pour voir si vous allez tenir, et il va vous donner une bénédiction plus grande. Alors voilà ce que vous êtes, élu de Dieu, saint et bien-aimé. Puis, nous avons parlé du vieil homme, n'est-ce pas ? L'homme naturel, descendant d'Adam, eh bien, dans le chapitre 3, on a vu qu'il était, on l'a dépouillé. Et puis, à la place, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le nouvel homme. Le vieil homme, c'était notre vie passée. Notre vie passée. Qui avait pour parent, en quelque sorte, la chair et le péché. La chair et le péché, ou le péché dans la chair, ça produisait une ancienne manière de vivre, mais nous avons été libérés de cela. Nous sommes morts à cette ancienne manière de vivre. Mais la nature adamique, on l'a encore, hein, et nous savons qu'elle est faite, nous savons qu'elle ne s'améliore pas par la conversion, c'est pour ça que ça reste noir, n'est-ce pas, la... Cette nature, elle est là, mais il y a une vie nouvelle qui est entrée, qui est la vie du Seigneur, qui a régénéré notre esprit, et puis, alors, eh bien, c'est le nouvel homme qui commence là, et alors, il a à se développer et à grandir, et il grandit justement. La vie est de Dieu. Dieu nous a donné la vie éternelle, et c'est la vie de son Fils. Dieu nous a donné la vie éternelle, la vie est dans son Fils. Alors la vie nous a pénétrés quand nous avons accepté Christ. Notre esprit a été régénéré, et alors Christ est d'abord en nous, enfant, puis adolescent, puis homme. C'est, n'est-ce pas? C'est la vie du Christ qui se développe, et c'est ainsi que nous ne vivons plus selon le vieil homme. La chair est toujours là, c'est vrai, elle ne s'améliore pas, je m'en rends compte, mais je juge la chair, je regarde à Christ et je laisse la vie de Christ s'épanouir en moi. Et c'est en le regardant, c'est pas en faisant des efforts personnels pour nous améliorer, c'est en contemplant Christ que nous le reflétons. Nous lui sommes rendus semblables par quelle puissance? Par la puissance du Saint-Esprit en nous. Alors, le vieil homme, vous l'avez compris, c'est la nature que nous avons héritée de nos pères, mais le nouvel homme, maintenant, c'est la vie de Christ en nous. C'est lui qui est le nouvel homme. Et le nouvel homme ne peut pas pécher, hein, mais le vieil homme, il pêche. Le vieil homme peut pécher. Mais alors, au lieu de vivre dans le péché, nous dépouillons le vieil homme. C'était notre ancienne manière de vivre, maintenant c'est fini. Nous le considérons comme mort. Vous comprenez? Il est mort. Alors n'allez pas le déterrer en vous disant, oh, ben, c'est qu'il s'est amélioré sous la terre. Non, non, non. Non, non, vous savez que ça se corrompt. N'est-ce pas? Que depuis votre conversion,
vous vous voyez plus misérable qu'avant, c'est un progrès. Comprenez-vous? Parce que tant que vous vous croyez sûr de vous-même, ça va être la chute. Hein? Alors, c'est tout à fait normal, parce que un mort, il se corrompt. Alors, donc, ne retournez pas là, pleurez sur le cimetière. Cessez de pleurer sur vous-même. J'ai dû passer par là, hein, parce que moi aussi je pleurais sur moi-même. Cessez de pleurer. Abraham se leva de devant son mort. Hein, qui était son mort? Sa chère Sarah. Hein. Ben oui, mais notre cher vieil homme. Finissons de pleurer sur notre mort. Il est mort maintenant. Regardons en avant. Abraham se leva devant son mort. Levons-nous. Ne nous regardons plus toujours. Et regardons qui? Le Seigneur. Qui est notre vie? Aux yeux de Dieu, votre nouvel homme, c'est son Fils. Alors vous comprenez comment il peut nous aimer. Le nouvel homme, c'est la vie de Christ en nous. C'est son caractère manifesté en ceux qui l'ont reçu. C'est donc la nouvelle nature. Et le fait d'avoir revêtu le nouvel homme, c'est un point de départ pour en manifester pratiquement les caractères qui sont ceux du Christ. Alors, comme je l'ai dit, et c'était une des retraites que nous avons eues, les trois âges de la vie chrétienne, le Christ est d'abord en nous, enfant, puis ensuite adolescent, puis homme fait, et nous devons parvenir à la pleine stature du Christ. Il doit y avoir une progression. Ce n'est pas une progression du vieil homme, une amélioration du vieil homme, c'est la progression du nouvel homme. Plus vous laissez le Christ grandir en vous, bien voilà ce qui se produit, et alors votre vie est de plus en plus semblable à celle de Christ. Mais pour que tout soit achevé et rendu parfait, eh bien, il faut son retour. C'est à sa venue que nous serons alors rendus semblables à lui, et que définitivement il n'y aura plus d'ombre pour nous, nous serons comme Christ. Et c'est cela notre espérance, notre certitude. Il a tout accompli pour que cette œuvre parfaite soit réalisée, de sorte que nous ne doutons pas de lui. De sorte que maintenant, après avoir rappelé cela pour faire le lien avec le chapitre précédent, nous voyons après ces principes généraux que j'ai soulignés que l'apôtre en vient au devoir des fidèles dans les diverses relations où ils se trouvent dans le monde. Nous avons vu que Christ domine et est présent maintenant au cœur de toutes choses. Il est au cœur de toutes choses dans nos vies. Quoi que vous fassiez, vous devez penser au Christ. On ne fait plus quelque chose sans Christ, sans penser au Christ. Notre pensée a été rendue captive à l'obéissance du Christ. Et nous savons tout de suite si les pensées que nous avons ne sont pas des pensées du Christ. Parce que le Saint-Esprit est une personne très sensible en nous. Alors ne résistez pas au Saint-Esprit. Quand vous avez des pensées mauvaises, le Saint-Esprit est contristé. Il ne vous approuve pas. Alors vous sentez une tristesse. Alors qu'est-ce que je fais? Je me juge. Seigneur, comme c'est vrai que j'avais besoin d'un sauveur. Quand je vois que je suis encore capable de penser à ça. N'est-ce pas? Alors, je ne pleure plus. Mais je me condamne et je dis, merci Seigneur de ce que je suis mort. C'est ça la mortification. Dans la foi, on se considère comme mort et puis le Seigneur nous libère. Il nous replace en lui. Mais ce n'est jamais lui qui s'éloigne de nous. C'est toujours nous qui nous écartons. Si je cours les yeux fixés sur Jésus, tout va bien. Mais si je commence à regarder à droite, à regarder à gauche, ce que font ceux-ci, ce que font ceux-là, ils se permettent ceci, ils se permettent cela, pourquoi est-ce que moi aussi je ne pourrais pas me permettre ça? Ce sont des chrétiens, je n'ai pas à les juger, mais je n'ai pas à leur ressembler. Comprenez-vous? Te ressembler qui? Jésus.
n'est-ce pas?
Voilà. Alors, c'est cela que nous devons bien saisir. Alors, tout cela va avoir une application dans le domaine de la vie pratique. Et c'est cette question, quels sont les domaines que la foi au fait divin, que le Seigneur est mort pour nous, pour que nous soyons libérés, qu'il a vaincu les puissances de Satan, que nous ne sommes plus sous la loi maintenant, parce qu'il a satisfait la loi, et il l'a vécu pour nous, nous sommes maintenant sous la grâce, nous sommes rendus agréables dans le bien-aimé de Dieu, et Dieu nous voit dans les perfections de son Fils. Alors, nous voyons que tout ce que nous avons considéré va s'appliquer dans notre vie familiale. Dieu veut amener nos cœurs à vivre des sentiments qui étaient en Jésus-Christ, alors dans la famille. Alors il y a un enseignement pour les femmes. Vous pouvez biffer, si vous voulez, dans votre Bible. Puis mettre faux. J'ai une Bible où je pourrais vous montrer cela. Et c'était une Bible d'un pasteur. Alors il avait biffé tout ce qui ne lui convenait pas. Faux. Ah, évidemment, les femmes étaient contentes. Enfin, elles n'ont pas été soumises à leur mari. Et dans le 5 des Éphésiens, il a biffé tout ce qui est dit au sujet de la soumission de la femme. Hein. Et il est mort. Il n'a pas eu une belle mort. Hein. Il avait mis faux. Enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais moi, je crois que quand même, quand on accepte que c'est la parole de Dieu, alors c'est un grand bonheur. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient au Seigneur. Est-ce que c'est pour le Seigneur que vous vivez et que vous acceptez son ordre? Femmes, soyez soumises à vos maris, car c'est ainsi que vous devez agir devant le Seigneur. Ça, c'est la traduction en français courant. Hein. C'est ainsi que vous devez agir. Si vous voulez agir ainsi, bien, ce sera bien. Mais il est pas dit qu'il faut être soumise n'importe comment. Parce que les maris peuvent dérailler. N'est-ce pas? Oui, ces saints hommes, ils peuvent dérailler. Alors, c'est pourquoi la femme doit être une aide et lui dire, attention, stop, hein? Est-ce que tu ne te trompes pas? Mais il y a une manière de dire à son mari, n'est-ce pas? Vous pouvez lui parler tout en étant soumise. Le mari a une idée, il veut faire ceci, il veut faire cela. Puis vous, dans le Seigneur, vous vous dites, je ne pense pas que ce soit très juste. Mais vous n'allez pas dire, non, 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 n'est-ce pas? Je ne suis pas d'accord, tu ne vas pas faire. Il y a une façon de lui parler. Tu as bien réfléchi. Est-ce que tu ne penses pas que... Et puis vous suggérez quelque chose. Hein? Vous savez, les femmes, elles peuvent très bien suggérer. Elles ont l'air de rien. Monsieur, elle s'impose. Hein? Mais je sais aussi que certaines femmes ne veulent pas d'un mari qui se cache sous le lit, qui dit « c'est moi le maître, il est sous le lit !» Parce qu'il a peur du rouleau, là, de pâte. Et la femme qui disait « sors de là !» Non, mais vous connaissez bien ces histoires de famille. Une femme qui est vraiment femme, elle aime avoir un homme qui est vraiment un homme. Et elle respecte cet ordre divin. Comprenez-vous? Et il faudrait alors avoir du temps pour étudier tout cela, tout ce qui est dit au sujet de la femme. Elle n'est pas inférieure à son mari, elle est égale. Nous sommes complémentaires, nous avons besoin l'un de l'autre. Mais il faut qu'il y ait un chef. Et puis, alors que nous sachions avoir une colonne vertébrale, si nous sommes un homme, n'est-ce pas? Et que nous soyons un appui pour notre femme et aussi une protection, parce que, évidemment, la parole dit que c'est un sexe plus faible.
Non, maintenant, nous, hein. On a aussi des anabolisants pour les femmes. Alors, on est devenu le sexe fort. Puis on s'impose. Puis on arrive à des choses abominables. Hein. On est tellement féministe que on a crucifié maintenant une femme. Enfin, l'image. Hein. Il y a une église à Toronto où on a mis sur la croix une femme. Parce que on est féministe. Hein. Pourquoi c'est toujours un homme notre sauveur? Voilà, on arrive à l'apostasie, au rejet ouvert des vérités du christianisme. Nous en dirons deux mots cet après-midi dans le tout dernier message. Eh bien, que le Seigneur nous montre en quel temps nous sommes. Et ne vous embarquez pas dans tous ces mouvements-là, en pensant que c'est un progrès. Parce que la femme libérée, elle est toujours un objet. Encore un objet, et plus que jamais un objet. Mais on vit dans l'illusion. Soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. C'est le Seigneur qui vous montre cela. Vous faites toutes choses comme pour le Seigneur, mais vous avez une manière de parler à votre mari, et vous avez compris par l'Écriture que vous êtes une aide. Dieu vous a créé pour être une aide à votre mari. Deux valent mieux qu'un. Ils ont un bon salaire de leur travail. Si l'un tombe, l'autre relèvera son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui n'a pas de second pour l'aider. Et il est finalement parlé de la corde triple qui ne rompt pas facilement. Eh bien, tout est dans le Seigneur. Soyez soumis à vos maris comme il convient au Seigneur. Ou dans le Seigneur. C'est convenable, selon l'Écriture. Parce que le Seigneur, c'est pas la question de la chute, ça. C'est une hiérarchie qui existait avant la chute. Quand Dieu a créé l'homme à son image, il les créa mâle et femelle, littéralement, qu'il a dit, homme et femme. Alors, l'apôtre Paul souligne ceci, que, au chapitre 11 de l'Épître aux Corinthiens, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Vous voyez que c'est une hiérarchie qui a été établie par Dieu. Alors, nous reconnaissons cela parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Il est à la tête, Christ est soumis au Père, l'homme se soumet au Fils et la femme se soumet à l'homme qui est en Christ, comprenez-vous? Et si elle a un mari qui n'est pas au Seigneur, bien il y a le chapitre 3 de l'épître de Pierre qui nous montre qu'une femme, quand elle a cette vie cachée dont nous vous avons parlé, elle peut amener son mari sans la parole. Parce qu'il y a des femmes hein, qui assassinent leur mari pour les convertir. Avec des textes bibliques, elle les irrite finalement. Alors, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés à la parole. Ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre, vous voyez, c'est une nouvelle manière de vivre. En voyant vraiment le Christ en vous, en voyant votre nouvelle manière de vivre, chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans des cheveux tressés et tout ça. Il y a des femmes qui pensent qu'elles peuvent garder leur mari seulement en se pomponnant indéfiniment. C'est pas cela qui gardera votre mari. Je vous dis pas d'être négligé, non! C'est une abomination de se négliger. Une fois qu'on est marié, oh ben je suis sa femme, il doit me prendre comme je suis. Alors vous êtes en mari graillon. Non, 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 non. Comprenez-vous? Vous avez une tâche, mais c'est en cultivant votre vie personnelle avec le Seigneur que vous garderez votre mari
en pouvant supporter peut-être certaines choses, en pouvant aussi avoir un esprit de pardon et en continuant de prier. Il y a un moment où on ne parle plus à son mari peut-être des choses de Dieu, enfin on garde notre place d'épouse et puis on parle de son mari à Dieu parce que c'est lui qui peut intervenir. C'est ça que vous devez comprendre. C'est peut-être une épreuve, mais vous pouvez persévérer. Mais alors les maris, ils n'ont pas oublié. Parce que les maris, nous les hommes, on a besoin qu'on nous rappelle. Il n'est pas dit que les femmes doivent aimer leur mari, parce que c'est naturel chez elles. Ça nous dit que les maris, c'est pas si naturel que ça. On est un petit peu porté à la polygamie. Pas tout à la fois, mais successive. Alors, et nous vous veillez. Alors Marie, aimez vos femmes. Et l'amour, ça se cultive. C'est pas seulement au début, là, du mariage. Alors oui, on aime sa femme. Puis après, c'est notre femme. On lui dit plus, je t'aime. Combien d'années que vous n'avez plus dit à votre femme que vous l'aimiez? Est-ce que, comme mari, vous savez encore lui dire « je t'aime » ou bien comme Abraham qui disait à sa vieille Sarah « je sais que tu es belle ». Elle avait à peu près 80 ans. Il la trouvait encore belle. Oui, mais elle avait cette beauté cachée. Et Sarah, justement, elle nous a donné dans l'épître de Pierre cet exemple d'une femme soumise à son mari. Elle appelait Abraham son Seigneur. C'est beau, n'est-ce pas? Alors, Marie, aimez vos femmes. Alors, il faut accepter cela. Puis peut-être, pourquoi est-ce qu'on ne lui apporterait pas une fois des fleurs? Les amants, ils apportent toujours des fleurs à leur maîtresse. Et pourquoi est-ce que vous n'apporteriez pas des fleurs à vos...
Mais c'est ma femme, elle n'a pas besoin de fleurs, elle va. Ouais.
Un cactus. Ça me fait plaisir de vous voir rire. Puis ne vous aigrissez pas contre elle, vous voyez, c'est tellement facile de s'aigrir contre sa femme, puis de penser à une autre qui serait mieux. C'est comme ça que ça commence. Vous savez, Satan, c'est Satan. Puis voilà, on fait des comparaisons. C'est la femme que Dieu m'a donnée. Je l'ai reçue du Seigneur. C'est une plante que je dois cultiver. Et je dois avoir une certaine manière de vivre à son égard. Parce qu'un jour, je devrai la rendre au Seigneur. Non pas comme une fleur fanée. Et vous savez, la domination du mari, mais qu'est-ce que c'est? C'est aimer sa femme comme qui? Comme Christ a aimé l'Église, et s'est donné lui-même pour elle. Éphésiens chapitre 5, vous voyez, la Bible s'éclaire par la Bible. C'est cela. Alors, on lit souvent un tas de bouquins, n'est-ce pas, sur la vie conjugale, etc. Mais lisez la parole, imprégnez-vous de la parole, vous saurez ce que vous devez faire. Alors que vous prenez les idées de Madame un tel ou de Monsieur un tel, eh bien non, c'est pas cela. Et je ne suis pas ici pour vous donner mes idées, mais pour m'exhorter par la parole que je lis avec vous. C'est si facile de s'aigrir. Et si vous sentez cela, Seigneur, pardonne-moi. Je n'ai pas des sentiments. Toi, tu ne t'es pas aigri contre moi. Et pourtant, tu aurais pu. Tu aurais pu t'aigrir. Parce que vous savez, quand on se connaîtra comme lui nous a connus quand on sera dans la gloire, on se dira, comment se fait-il qu'il m'a amené jusque-là. on appréciera vraiment la grâce de Dieu. Alors cela nous est montré, eh bien, non, c'est le vieil homme qui s'aigrissait contre sa femme. Mais maintenant nous avons le nouvel homme, il ne s'aigrit pas, c'est Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alors cette vie cachée, quand une femme voit que, malgré ses manquements, parce que la femme aussi a des manquements, eh bien, quand une femme voit que malgré ses manquements, son mari réagit comme Christ réagissait, ben, ça lui parle beaucoup plus qu'un sermon. Ne faites pas la morale. Ne soyez pas des moralisateurs. Mais voilà, alors, on arrive, faites toutes choses de cœur comme pour le Seigneur, en parole ou en œuvre. Voilà les pères. Pères. Et il a quelque chose à dire aussi aux pères. Non, mais d'abord enfants, hein. Verset 20, voilà, parce que là, ma femme me dira que j'ai loupé. Le verset 20. Elle aurait raison. Elle a aussi raison. Alors, enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Vous voyez, ah, mais ça, c'est dur aujourd'hui. Hein. Car cela est agréable dans le Seigneur. Alors, si c'est agréable dans le Seigneur. Si nous élevons nos enfants dans le Seigneur, l'obéissance fera partie de leur habitude. Mais si vous les laissez faire n'importe quoi, et si vous les laissez désobéir, sans les réprimander, sans les discipliner, parce que vous avez fait de votre enfant une petite idole, eh bien, vous savez, ne vous étonnez pas qu'une fois qu'ils seront grands, ils vous mangeront sur la tête. C'est pas cela. Vous devez élever vos enfants dans la discipline du Seigneur. Et un enfant, quand on lui apprend que l'obéissance, c'est agréable au Seigneur et que c'est la désobéissance qui a amené tout le mal dans le monde, bien l'enfant, il comprend. Moi, je suis émerveillé de ce que les enfants comprennent et de ce que les enfants discernent et ce qu'ils peuvent dire. Toujours en mémoire ce qui s'était passé au camp, quand trois petits gosses, après que j'ai raconté une histoire, m'ont dit, la vieille Sarah, là, la femme d'Abraham, elle avait 127 ans, et ses trois enfants viennent me dire, tu ne trouves pas que c'est un peu vieux, 127 ans? J'ai dit, vous trouvez? Ben oui. Et puis, il y en avait un qui avait 4 ans, l'autre 5, 6 ans, et puis 7 ans peut-être. Puis tout d'un coup, il me regarde tout cela, puis il me dit, toi, quel âge tu as? C'est ça, c'est cette simplicité des enfants. Alors je dis, devinez. Alors il y en a un qui dit ceci, il y en a un qui dit cela, c'était à côté, bien sûr. Mais le plus petit, il n'avait rien dit. Puis il me regarde, puis il les regarde, puis il dit, tu racines, son âge, c'est la vie éternelle. Alors, vous savez, hein, ben, s'il y avait quelqu'un qui était surpris, c'était moi. Mais ce gamin, bien, il m'a fait une injection de vitamines. Parce que de me dire cela, alors que c'était le soir et qu'on allait avoir une nouvelle réunion, j'étais un peu fatigué, eh bien, ça m'a fortifié. Le Seigneur emploie nos enfants. Et vous savez, les enfants savent discerner et ils nous font du bien. Et que d'enfants ont été le moyen de la conversion de leurs parents. Et les enfants prient pour la conversion des parents. Enfants, alors, mais il faut les élever dans l'obéissance, en toute chose à vos parents. Mais pour qu'on puisse nous obéir, il faut qu'on soit des exemples. Il faut que les parents soient d'abord des exemples. Il faut d'abord que les parents obéissent au Seigneur pour que les enfants suivent. Cela est agréable au Seigneur. Et quand quelque chose est agréable au Seigneur, vous savez, tout ce que Dieu désire, c'est de nous faire du bien. Pour lui, punir, châtier, c'est une œuvre étrange, c'est un travail inaccoutumé. C'est ce que nous lisons dans Ésaïe. Parce que Dieu aime faire grâce, il aime nous bénir. Alors, voilà pourquoi au verset 21, j'y arrive quand même, père. N'irritez pas vos enfants. Ah, mais c'est facile d'irriter ses enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Eux aussi, ils ont leurs épreuves, ils reviennent de l'école, etc. Puis, ça n'a pas été très bien, et puis, ils aimeraient peut-être nous parler, mais on n'a pas de temps. Nous aussi, on revient du travail. Mais enfin, vous avez des enfants, vous êtes responsables. Alors, sachons leur donner un moment aussi. N'irritons pas nos enfants. Ils ont besoin de vous. Que le père devienne l'ami de ses enfants. Que la mère devienne l'amie de ses enfants. Que les enfants sachent qu'ils ont à la maison de vrais amis. Et qu'ils peuvent tout dire à leurs parents. Et que ça n'irritera pas les parents. Vous aurez une compréhension. Vous comprendrez la situation de l'enfant. Vous vous mettrez dans la peau de l'enfant. Vous vous rappellerez que vous aussi, vous avez été enfant. Et puis, vous comprendrez. Alors, il ne faut pas qu'il se décourage. Faites tout pour que... Encouragez vos enfants pour ne pas lui dire « Tu es un incapable, tu ne feras jamais rien, on ne fera jamais rien de toi. » Vous connaissez ces paroles qui sont dures, hein? Quand on est énervé, on dit cela comme ça. On dit, alors après, nos enfants, ils vont ailleurs. Comprenez-vous? Il faut que dans notre foyer, ils puissent revenir et que ce soit là un lieu d'encouragement. Alors, maintenant, en passant plus loin après tout ce que la vie de Jésus, du nouvel homme, peut apporter dans la famille, des changements, il y a les serviteurs. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. On s'étonne quelquefois que le christianisme n'est pas cherché à abolir l'esclavage. C'était comme cela de ce temps-là. Alors il y avait des serviteurs et il y avait des esclaves, puis il y avait des maîtres. Et au fond, c'est pas l'esclavage que le christianisme a aboli. Et la plupart des conversions parmi les païens à Rome, c'était d'abord des esclaves. Qui ont été libérés intérieurement. Parce que c'est ça qui est formidable. L'Écriture nous libère d'abord de chaînes intérieures. Elle a libéré des esclaves. Et des esclaves sauvés ont été les moyens de conversion de leur maître. Comprenez-vous? Mais dans l'Église primitive, l'Évangile a eu un très grand succès parmi les esclaves. Et qui ne se sont pas révoltés, parce que si Paul et les apôtres ou Jésus avaient prêché l'anti-esclavage d'abord, ça aurait fait une révolution sanglante. Le monde n'était pas prêt pour ça. C'était la condition humaine à ce moment-là, il y avait des esclaves. Mais mes amis, au lieu d'esclaves, mettez ouvriers, hein, aujourd'hui. Puis mettez, au lieu de maître, patron. Eh bien, vous savez, il y a des ouvriers qui sont traités des fois comme des esclaves. Alors, il y a donc un enseignement qu'on peut prendre. On ne peut pas dire, mais maintenant, il n'y a plus d'esclaves. Non, il y a encore. Alors, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Non seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Je suis né, puis j'ai la condition d'un ouvrier. Mais quand j'ai prêché ça, il y a 45 ans, on a dit que j'étais un communiste, que j'étais un anarchiste, ce que vous voulez, les chrétiens, en montrant justement que les ouvriers, ils devaient reconnaître l'autorité du patron, quand même. Puisqu'on est ouvrier, ils nous ont engagés. On reconnaît l'autorité du patron dans le Seigneur. Et puis, on accomplit notre travail, non pas n'importe comment. Quand on est un authentique chrétien et qu'on sait qu'on a des heures de travail, eh bien, on est fidèle. Et on vient à l'heure. On n'essaye pas de resquiller. Comprenez-vous? Il y a un témoignage qui est rendu par l'ouvrier chrétien. Et il doit comprendre que ce n'est pas de distribuer des traités à son patron d'abord. Mais c'est d'être un traité lui-même. N'est-ce pas? D'être conséquent et que ce qu'on lui demande, il le fait bien, même si le patron n'est pas là pour surveiller. Et il ne perd pas son temps. Alors le patron commence à remarquer cela. C'est un changement dans la vie d'ouvrier. Il reste toujours l'ouvrier, mais il fait toute chose comme pour le Seigneur. Parce qu'il sait que le Seigneur le voit. Et il le fait dans la simplicité de cœur et dans la crainte du Seigneur. Si j'ai été appelé esclave ou ouvrier, eh bien restez dans la position où le Seigneur vous a mis. Mais ayez un témoignage dans cette situation. Et puis, alors, verset 23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Ah, s'il y avait vraiment ces sentiments dans le cœur aussi de l'ouvrier chrétien. Comme pour le Seigneur, il faut voir dans son patron le Seigneur, même si vous trouvez qu'il a un mauvais caractère, ce patron. Eh bien, comment est-ce qu'il pourrait changer son caractère s'il rencontrait le Christ? Et alors, comment peut-il le rencontrer? Par vous, vous êtes là. Christ en vous. Peut-être que vous allez souffrir d'abord, mais ça peut changer. Il regarde, puis il voit que vous n'êtes pas comme les autres. Il voit qu'il y a une différence. Puis peut-être qu'un jour, il vous demandera la raison de l'espérance qui est en vous, puis que vous pourrez témoigner. Mais tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Vous avez un héritage. Ce n'est pas simplement un gros salaire qu'on veut d'abord. Mais le Seigneur peut vous donner aussi ce qui est nécessaire. Mais servez le Christ, le Seigneur. Car celui qui agit injustement, hein, comme ouvrier, il recevra selon son injustice, car il n'y a point d'acception de personne devant Dieu. Je suis ouvrier, j'accepte ma condition, et puis maintenant, je veux la vivre dans le Seigneur. Et je m'attends à lui pour un changement, s'il l'estime. Mais alors maintenant, maître, il y a le patron. Alors, maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable. Un patron chrétien, bien, il doit être connu comme étant un homme qui sait donner un salaire équitable à ses ouvriers et qui n'est pas un simple capitaliste qui veut exploiter ses employés, mais qui, comme chrétien, se justifie en disant « Je fais des grands dons à l'Église. » Donnez peut-être moins à l'Église et payez mieux vos ouvriers. Ah, je me ferai battre, je me ferai fusiller, je sais que c'est dans le programme. N'est-ce pas? Mais, vous devez considérer l'ouvrier comme si c'était le Christ. Il n'y a plus de différence, cite barbare, je veux voir Christ aussi dans cet ouvrier. Qu'est-ce que Christ ferait pour cet ouvrier? Bien, il lui donnerait un salaire équitable. Ce n'est pas du paternalisme que le patron a à faire, mais être juste. Selon les normes. Et parce que les patrons n'ont pas été justes aussi, et puis qu'il y a eu bien des révoltes, bien voilà, il y a eu les syndicats et tout ce que vous voulez. Mais si les chrétiens aussi avaient pu être des modèles, eh bien, il y aurait eu bien des changements chez les maîtres. Mais alors, il fallait enseigner cela. Quand j'ai essayé d'enseigner cela, dans des églises dont je faisais partie, eh bien, c'était pas reçu. Parce qu'on disait que c'était un message social. Social. Pas du tout. Parce qu'il est dit, le salaire des ouvriers qui ont été frustrés dans leur travail crie aux oreilles du Seigneur des armées. Malheur à vos richesses sont pourries. Alors, Dieu aime les riches, il a donné des richesses à Abraham, mais vous voyez le serviteur d'Abraham, il avait toute la confiance de son patron. C'était même lui qui est allé chercher l'épouse. Hein. Eliezer est allé chercher l'épouse. Il y avait des relations bénies, merveilleuses, entre patron et serviteur. Eh bien, il devrait pouvoir y avoir cela. Mais cela n'existe que s'il y a Christ en nous. Christ dans le cœur du patron, Christ dans le cœur de l'ouvrier. L'ouvrier ne voit plus dans son patron un homme, mais il voit le Seigneur. Et le patron sait que lui-même, il a un patron dans le ciel. Il y a une hiérarchie. Il a un patron dans le ciel. Alors, il essaye d'apporter vraiment la justice. Verset 2. Persévérez dans la prière. Alors, vous avez les dernières exhortations. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Cette persévérance dans la prière, qu'est-ce que c'est de persévérer dans la prière? Bien, en toute chose, ayez cette relation avec Dieu, ayez une vie ouverte à Dieu. Ne faites rien sans prier, mais vous pouvez prier dans votre auto, dans votre voiture, dans ces moments où nous devons prendre des décisions. Oui, on a prié peut-être le matin, on a pu avoir un moment avec le Seigneur, mais c'est une vie continue. On a branché la communication avec le ciel. Dès notre réveil, et puis alors, après, bien, on peut immédiatement avoir la communication. Dans le moment opportun, on reçoit le secours du Seigneur. Et puis, on a déjà des actions de grâce. On sait que la journée va bien finir. Seigneur, moi, je ne sais pas comment va se passer cette journée, mais je te la confie, je me remets à toi, donne-moi ta sagesse, donne-moi d'agir comme tu agirais, et je te rends grâce déjà parce que tu m'as exaucé et tu le feras. Je compte sur toi. Priez en même temps pour nous. Alors vous voyez, l'apôtre est en prison et il demande à ses Colossiens qui sont en liberté de prier pour lui, pour eux, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Vous voyez, que sa pensée, il ne dit pas priez pour nous pour que nous soyons libérés de la prison, hein, mais que dans la situation où nous sommes, on ait une porte ouverte. Parce qu'en prison, il y a peut-être aussi un témoignage à rendre. Paul l'avait rendu à Philippe et ça avait été la conversion du geôlier. Qu'il nous ouvre une porte pour la parole, c'est ça qui compte. En sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, ce mystère dont il a eu la révélation, que Christ peut être dans le cœur de l'homme, le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes. Parce que pourquoi est-ce qu'il est dans les chaînes? C'est à cause du Christ. C'est à cause de sa conversion. De sorte que ces souffrances sont les souffrances du Christ. Vous comprenez? C'est les souffrances pour son corps, comme on l'a vu au chapitre 2. Et priez pour que je le fasse connaître comme je dois en parler. Vous savez, c'est cela qui nous préoccupe. Comment est-ce que je vous parle du Seigneur? Comment est-ce que j'essaie de vous faire connaître la parole? Je sais que je suis incapable par moi-même. Qui est suffisant pour ces choses? Et vous voyez, l'apôtre Paul demandait qu'on prie pour qu'on puisse faire connaître la parole comme on doit en parler. C'est pas de n'importe quelle manière. Et je suis toujours à l'école du Seigneur. En lui demandant, quand je me fais ma promenade là, hein, eh bien, je suis en prière pour dire, Seigneur, comment, que veux-tu? Hier soir, quand j'ai compris que peut-être je pourrais vous mettre ces tableaux, quand même, je me dis, mais c'est peut-être trop encore. Et alors j'ai prié, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Et puis la conviction m'a été donnée que peut-être que ça pourrait vous aider quelques-uns. Alors, on l'a fait. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Qui sont ceux du dehors? Ben, dans la traduction du français courant, vous voyez pourquoi. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux qui ne sont pas chrétiens. Vous voyez? Il faut avoir un témoignage avec ceux qui ne sont pas chrétiens. Il ne faut pas aller leur dire, vous n'êtes pas des chrétiens, comme ça. Non. En faisant un bon usage de toute occasion qui se présente, à vous. C'est cela, racheter le temps, racheter le temps. On a peu de temps, alors que Dieu nous garde. Que votre parole, verset 6, soit toujours accompagné de grâce. Donc, un chrétien devrait toujours avoir des paroles accompagnées de grâce, assaisonnées de sel. Alors, évidemment, les gens ne comprennent pas. Hein, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est des paroles assaisonnées de sel? Alors, la traduction dit « Que vos paroles soient toujours agréables et pleines d'intérêt. Hein? » Assaisonnées de sel, ça veut dire « ça a du goût ». Comprenez-vous? Bien oui, elles doivent être pleines d'intérêt. Mais il y a des fois des paroles qui ne sont pas pleines d'intérêt, c'est plate, hein, comme vous dites. C'est plat. Que vos paroles soient toujours agréables et pleines d'intérêt. Parce que sans ça, ben, une retraite, ça peut être plat. Sachez répondre à chacun de la bonne manière, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Vous voyez, il faut être exercé, on ne parle pas n'importe comment. Comment est-ce que je dois parler à cette personne? Comment je dois parler à celle-ci? Il faut voir les individus. Alors, on arrive maintenant à ces dernières exhortations et ces salutations. Tychique, c'est un de ses compagnons. Le bien-aimé frère, c'est beau comme Paul parle d'un frère, hein? Il dit Tychique, le bien-aimé frère, est fidèle ministre. Il dit du bien de lui. Hein. Est-ce que nous savons dire du bien des autres? De nos collègues? Mon compagnon de service dans le Seigneur. Voilà ce qu'on est les uns pour les autres. Il n'y a pas de jalousie. Il communiquera tout ce qui... Il vous communiquera tout ce qui me concerne. Ça veut dire que qui va porter la lettre? C'est Tychique. Hein. C'est lui qui sera le facteur. C'est lui qui ira porter la lettre aux Colossiens et c'est lui qui leur dira tout ce qui concerne l'apôtre Paul. Il n'a pas besoin d'insister là-dessus. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation. C'est toujours mieux de faire une visite que d'écrire encore. Alors, il vous portera la lettre et puis il vous parlera. Pour qu'il console vos cœurs. Parce qu'il y avait des gens qui avaient été instruits par l'apôtre Paul, même si Paul n'était pas allé à Colosse, mais qui était allé à Éphèse, écoutez, et qui savaient que Paul était en prison. Et alors, ils étaient tristes aussi, puis peut-être découragés, se disant, mais comment est-ce que le Seigneur permet que des gens comme Paul soient en prison? Mais vous savez que c'est merveilleux, vous avez déjà béni le Seigneur parce que Paul a été en prison? Parce que quand on est tout le temps en mission, qu'est-ce qu'il arrive? On n'a pas le temps d'écrire. Et justement, ce matin, on m'a rappelé qu'il y avait encore une lettre à laquelle je n'avais pas répondu. Pourquoi? Ben parce que je suis souvent loin, hein, puis des fois le courrier s'entasse. Alors, si Paul n'avait pas été en prison, on n'aurait pas ses lettres. Et c'est merveilleux d'avoir été en prison parce qu'on a ses lettres. Donc, toute chose travaille au bien de ceux qui aiment Dieu. Et les souffrances de Paul ont travaillé à notre édification. Alors, sachant accepter la volonté de Dieu. Puis il dit, je l'envoie, donc ce Tychique, avec Onésime. Qui est Onésime? C'était un esclave. De qui? D'un homme considéré et considérable, qui avait été converti aussi par le moyen de Paul, qui était un homme riche, qui avait des esclaves, et qui habitait Colosse. Je t'envoie avec Onésime. Et il appelle cet Onésime le fidèle et bien-aimé frère qui est des vôtres. Et comment est-ce que vous pouvez connaître quelque chose d'Onésime? En lisant quelle épître? L'épître à Philémon, où on apprend... Alors, vous savez où elle est, l'épître à Philémon? Elle n'est pas dans l'Ancien Testament. Je vous dis ça en passant. Est-ce que vous avez eu de la peine de trouver l'épître aux Colossiens quand vous avez commencé? Je ne vais pas vous faire croire que je parle en langue, mais si vous voulez vous rappeler la liste des épîtres hein, de Paul, il y en a 13. Hein, c'est Rococo Galéfico Tetete Tipiti Fi. Oui, c'est très facile. Ro, c'est romain. Hein. Coco, il y a deux Corinthiens. Hein. Rococo. Donc, les Corinthiens suivent les Romains. Il y en a deux. Hein. Rococo, après Galate, après Éphésiens, puis après Philippiens, Éphésiens, Galate, Éphésiens, Galéphico. Colossiens, vous savez maintenant où est Colossiens. Il y a deux Thessaloniciens. Titi, c'est de Timothée, et Tite, et Philémon. Alors vous savez maintenant, Rococo Galefico, c'est bien facile. Alors, vous ne mettrez pas de temps pour trouver ça. Prenez ça par cœur. Alors, quand j'ai dit ça une fois, là, quelque part, dit, vous avez parlé en langue? Il y a toujours des choses drôles, hein. Alors, si vous lisez l'épître à Philémon, qui est la dernière, une épître personnelle, qui... Alors, vous apprenez que cet Onésime, dont parle Paul, était un esclave de Philémon et qui s'était sauvé et qui était venu à Rome, puis il avait rencontré Paul, je ne sais pas comment, en prison, et il s'était converti. Et il était devenu un enfant de Dieu. Mais Paul dit à Onésime, tu sais, il faudrait que ça se règle avec ton patron. Et il lui dit, je vais t'écrire une lettre, et puis tu retourneras vers ton patron. Et la chose a été réglée. Et c'est tellement touchant de lire, justement, comment Paul écrit à Philémon, Onésime, je te le renvoie, il est ton esclave, n'est-ce pas? Puis l'esclave, le patron avait le droit de le tuer, hein? Eh bien non, mais traite-le comme un frère, un cher frère dans le Seigneur. Il t'a été inutile autrefois. Puis peut-être qu'il t'a volé, mais s'il te doit quelque chose, dit l'apôtre Paul, mets-le-moi en compte. Vous ne trouvez pas que c'est beau ça? Voilà les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Et il va aider ce Philémon à se mettre tout à fait en règle, afin qu'il ait une bonne conscience et que tout soit bien. Alors, voyez ce qu'il écrit ici. J'envoie Tychique avec Onésime, donc son ancien esclave, le fidèle et bien-aimé frère. Voilà ce qu'il écrit à l'église de Colosse. Et qui est des vôtres. Il venait de là-bas, oui. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc. Voilà ce petit Marc-là, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres, s'il va chez vous, accueillez-le. Et vous savez, il y a une histoire au sujet de ce Marc. Marc, c'est celui qui a écrit l'évangile de Marc. C'était le fils d'une certaine Marie de Jérusalem, qui avait une maison, qui était la parente de Barnabas, qui était le compagnon de Paul. Et cette Marie, donc, avait un fils qui s'appelait Marc. Et Marc a voulu être le serviteur de Barnabas, de son oncle, et de Paul. Et alors, il était jeune encore, alors Paul et Barnabas sont partis avec Marc, mais... Pour les serviteurs de Dieu, il y a des souffrances terribles dans la mission. Et le pauvre Marc, à un moment donné, à cause des persécutions, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je veux retourner vers maman. Alors il a quitté Paul et Barnabas, puis il est retourné à Jérusalem. C'est plus facile d'être chez sa maman que d'être le serviteur des apôtres, hein, de travailler avec des hommes qui sont tout le temps menacés. Puis, un temps s'est passé, et à une autre occasion, Barnabas et Paul sont revenus à Jérusalem. Puis, évidemment, Marc avait fait aussi quelques progrès. Puis, il a demandé de nouveau, est-ce que vous me prendriez avec vous? Et Paul n'a pas voulu. Parce que lui, il a dit, non, c'est pas possible. Quelqu'un qui nous a abandonnés comme cela, non, ça, il n'a pas voulu le reprendre. Et il a pris Silas. Mais le conflit entre deux hommes qui s'aimaient beaucoup, Barnabas et Paul, a été tel qu'ils se sont séparés. Barnabas a pris Marc. Mais pour quelle raison? C'était son parent, vous comprenez? Alors, et Barnabas était un homme très doux comme ça. Tandis que Paul, il a pris Silas. Et je pense que Paul a bien fait, parce que quand ils sont partis pour ce second voyage, il est arrivé à Philippe, et qu'est-ce qui s'est passé à Philippe, avec Silas? Ils ont été arrêtés, battus, jetés en prison. Vous croyez que Marc aurait supporté ça? Non, Paul a été conduit dans ce sens-là, pour éviter que Marc tombe une autre fois, parce qu'il aurait abandonné de nouveau. Il n'aurait pas supporté, tandis que Silas, lui, il a pu supporter les coups, et même dans la prison, il chantait des cantiques. Puis il y a un tremblement de terre, les portes sont ouvertes, etc. Mais là, on apprend au fond pourquoi il y avait eu cette divergence. Au fond, Barnabas, lui, eh bien, c'était son neveu, ou cousin, enfin un proche parent, et il l'a pris, puis il était de Chypre, alors ils sont allés à Chypre. Mais plus tard, eh bien, Paul nous montre qu'il a changé aussi d'avis, parce que vous pouvez ne pas faire confiance à quelqu'un à un moment donné, hein, mais vous ne devez pas rester sur votre position, vous devez toujours être ouvert, et s'il y a une possibilité, reprendre le contact. Et c'est ce qu'il fait. Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres, s'il va chez vous, accueillez-le. Donc il le recommande. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis. Ça veut dire qu'ils étaient juifs, hein, d'origine. Elle est seule qui ait travaillé avec moi pour le royaume de Dieu et qui ait été pour moi une consolation. Parce que beaucoup de juifs circoncis n'étaient pas une consolation pour Paul. Ils amenaient du trouble parce qu'ils prétendaient qu'il fallait, pour être sauvé, être circoncis. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Et cet Épaphras, c'est celui qui, nous pensons, qui a fondé cette église. Il est serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Vous voyez que c'est un combat, la prière. Afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Ce qu'il avait demandé au début, il continue de demander à la fin. Et ce que je demande pour chacun de vous, c'est ça. Mon combat pour chacun de vous, que j'aime dans le Seigneur, c'est que vous puissiez persister dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Et que vous croyez que la volonté de Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur pour vous. Ce n'est pas ce que vous demandez qui est le meilleur. C'est ce que lui veut. Non pas ce que je veux, a dit Jésus, mais ce que tu veux. S'il était possible que cette coupe passe loin de moi, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et c'est là que je me permets de faire ce jeu de mots. Quand on accepte la volonté de Dieu, ça devient une fête. Hein? La volonté de Dieu, quand elle est faite, F-A-I-T-E, on s'aperçoit que c'est une fête. F-E, circonflexe, T-E. Hein? La volonté de Dieu, quand on accepte qu'elle soit faite en nous, ça devient une fête. Le cœur heureux, c'est ce cœur qui est d'accord avec ce que Dieu veut. Quand Jésus a dit que ta volonté soit faite, il s'est levé et puis il a pu traverser toute cette passion, les douleurs de la flagellation et de la croix, et il nous a sauvés. C'est cela qui compte. Car verset 13, je lui rends témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et ceux d'Hierapolis. Pour ceux de Laodicée, je vous ai parlé de Laodicée, eh bien, on priait pour eux parce qu'on savait que c'était justement des gens qui étaient un peu triomphalistes. Luc, ben Luc était le médecin, comment est-ce qu'il l'appelle ? Luc, le médecin bien-aimé. La version ici dit Luc, notre cher docteur. Puis alors, tout à coup, Démas. Et Démas vous salue. Pourquoi rien au sujet de Démas? Ah, ça dit quelque chose. L'apôtre n'a rien à dire de cet homme-là. Pourquoi? Parce qu'il discerne qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce Démas, hein, quand vous voyez son nom, vous le cherchez ailleurs, dans Titi, dans l'Épître à Timothée, puis qu'est-ce que vous apprenez? Démas m'a abandonné. Et pour quelle raison? parce qu'il a aimé le présent siècle. Hein? Il a aimé le monde. Où allez-vous cela? Chapitre 4, hein, de la deuxième épître. Hein. Verset 9. Ouais. Efforce-toi de venir me rejoindre bientôt, car Démas m'a abandonné. Oh, ça ne se fait pas en une journée. Hein. Parce qu'il aime trop le monde présent. Et il est parti pour Thessalonique. Voilà, un petit voyage. Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas et l'église qui est dans sa maison. Vous voyez comme ça se passait autrefois? Eh bien, on offrait sa maison pour que l'église puisse se réunir. Il y avait des gens qui avaient une maison, ben, ils offraient peut-être le sous-sol, que sais-je, une chambre où l'on pouvait se réunir. Voilà comment a commencé l'œuvre. Alors, Paul le souligne. Lorsque cette lettre arrivera, qu'elle soit lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit lue aussi dans l'église de Laodicée, vous voyez qu'on se passait les lettres, et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Ça ne veut pas dire que Paul avait écrit une lettre à Laodicée, c'était probablement la lettre écrite aux Éphésiens, parce qu'il n'y a pas de lettre à Laodicée dans le Nouveau Testament, hein. Mais la lettre aux Éphésiens avait aussi passé à Laodicée, puis de Laodicée, elle devait passer à Colosse. Alors ne cherchez pas à l'infini à trouver une lettre qui aurait été perdue, la lettre à Laodicée, non. Ce qui est là nous dit simplement que les lettres que Paul écrivait, elles étaient passées d'une assemblée à l'autre, d'une église à l'autre. Et dites à Archip. Alors là, c'est un serviteur de Dieu qui a peut-être besoin d'une exhortation. Prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur. C'est peut-être moi, Archip. Peut-être que je voudrais faire autre chose. Prends garde au ministère que tu as reçu du Seigneur. Pourquoi est-ce que je sers le Seigneur? Parce qu'il m'a appelé. Parce qu'il m'a appelé. Alors, maintenant, je dois prendre garde. Est-ce qu'on va continuer ces retraites, ou bien est-ce que je dois arrêter? C'est cela que je dois prendre garde. Est-ce que j'ai reçu un ministère qui venait du Seigneur? Bien, c'est mon idée qui a prévalu, puis j'ai voulu organiser quelque chose. Non. C'est qu'on m'a dit, vous faites des camps là pour les jeunes, puis pour les plus âgés, et les personnes ne peuvent pas venir dans un camp ou dormir sous des tentes, hein. Il y a des personnes âgées. Alors, vous ne pourriez pas aussi réunir des personnes âgées? Mais comment, où? Puis voilà, j'ai pensé à cette maison. Puis j'y étais venu en 1970, et plusieurs fois. Puis je suis venu trouver la direction. Puis j'ai demandé si on pourrait faire des retraites. Puis c'est comme ça que cela a été donné. Et nous en bénissons le Seigneur. Alors vous voyez, nous devons prendre garde au ministère que nous avons reçu du Seigneur afin de le remplir. J'ai un patron, n'est-ce pas? C'est le Seigneur. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Ça veut dire que, habituellement, il dictait ses lettres, mais pour bien montrer que ce qu'il avait dit, dicté, venait de lui, il signait. On pense que Paul avait les yeux faibles, et alors, bien souvent, c'était quelqu'un qui, un secrétaire qui écrivait, un de ses collaborateurs. Souvenez-vous de mes liens. Souvenez-vous de mes liens. Ça veut dire, souvenez-vous que je suis un prisonnier simplement et que j'ai besoin aussi d'être secouru dans la grâce de Dieu. Mais il termine, que la grâce soit avec vous. Eh bien voilà, l'heure est venue. C'était pénible, l'épître aux Colossiens? On n'a fait que la survoler. Hein. Mais vous allez maintenant. Vous avez vu le paysage. Hein. Bien, redescendez là, faites des arrêts dans votre lecture, méditez, et le Seigneur vous bénira. Maintenant, vous savez comment est l'horaire pour cet après-midi.